C'est beaucoup mieux d'élever les enfants dans le Seigneur et de les former que de les réparer en tant qu'homme, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux de former un enfant que de réparer un homme. Mais, gloire à Dieu, même si on a des hommes qui ont besoin d'être réparés, on peut faire ça aussi avec l'aide du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, prenez vos Bibles ce matin. Si vous êtes ici pour la première fois, peut-être vous ne connaissez pas ce que nous faisons souvent ici à la vie comblée. D'abord, on veut vous souhaiter la bienvenue. On est bien content que vous êtes ici et nous voulons que vous soyez à l'aise et que vous recevez l'amour de Dieu, la puissance de Dieu et la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace. Mais ici, nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Nous croyons qu'elle a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Nous croyons qu'elle est comme une semence incorruptible et qui est plantée dans notre cœur, qui va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit que ce que nous croyons de notre cœur et qu'est-ce que nous disons avec notre bouche s'accomplit. C'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à prendre une Bible dans votre main. Sinon, il y a une feuille avec presque tous les versets de la Bible qu'on va lire ce matin, qui est écrit là-dessus. Prenez cette feuille. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Je serai à toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Mais j'avais vraiment hâte de partager ce message parce que c'est un message d'encouragement. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient être heureux dans la vie? La question que je vous pose, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient vivre longtemps sur la terre? Longtemps, donc une longue et heureuse vie, c'est vraiment la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le secret d'une vie heureuse. Mais nous allons voir plus spécifiquement dans la Bible que Dieu nous a promis, et c'est dans vos notes, que Dieu nous a promis une longue et heureuse vie ici sur la terre. Beaucoup des gens ne le savent pas. C'est pourquoi quand il y a des personnes, même des tragédies, des jeunes enfants qui sont morts, des personnes qui sont vraiment trop jeunes pour mourir quand ils meurent, il y a des personnes qui vont dire les choses comme, tu sais, Dieu avait peut-être juste besoin d'une autre fleur dans son jardin, les choses comme ça. Mais laisse-moi vous dire, ça c'est beau, des fois ça soulage une personne, mais c'est pas qu'est-ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que le plan de Dieu pour nous, c'est une longue et heureuse vie ici sur la terre. Parce que notre Dieu, notre Père au ciel, il est un bon papa qui nous aime. Et on a vu la semaine passée, on a parlé de la sagesse. Et on a pris comme texte Proverbes chapitre 3. Et j'ai marqué juste quelques références du Proverbes chapitre 3 dans le début de vos notes. Mais on va lire cela en Proverbes 3. Si vous voulez aller avec moi dans votre Bible à Proverbes 3, ça serait encore mieux. Mais la Bible dit « Heureux l'homme et la sagesse ». On a vu la semaine passée que si on veut être heureux dans la vie, il faut marcher dans la sagesse de Dieu. La sagesse nous enseigne comment faire toujours la bonne chose au bon moment. Et en verset 16, c'était marqué « Dans sa droite est une longue vie ». Tout le monde dit « longue vie ». Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la mort. La Bible n'est pas trop religieuse, vous êtes d'accord? Les personnes religieuses vont dire « Mais écoute, des fois c'est la volonté de Dieu pour les bébés de mourir. C'est la volonté de Dieu pour les personnes d'être tuées avant d'avoir 30 ans. » Laisse-moi vous dire, c'est pas qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Et des personnes qui vont dire, c'est la volonté de Dieu qu'on soit pauvre. Si on veut être pur, si on veut avoir la piété, il faut être pauvre. C'est pas qu'est-ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que si nous avons la sagesse de Dieu, nous allons avoir une heureuse vie sur la terre et une longue vie sur la terre. Amen. C'était marqué en verset 17, « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. » Donc, c'est conditionnel. Il faut saisir l'arbre de vie. Il faut saisir la sagesse. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Ouh, j'aime. Est-ce que vous aimez la Bible? Et tous ces versets qu'on a vus, de verset 13 jusqu'à verset 18, ça nous montre au moins 5 qualités d'une vie heureuse. Et une chose qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la première qualité, c'est qu'une vie heureuse, c'est une longue vie sur la terre. Amen? Proverbes chapitre 3 encore, le premier verset en fait. Parce que tout ce que l'on a lu en verset 13 jusqu'à verset 18, ça parle du fruit de la sagesse. Mais là, en verset 1, nous voyons, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » C'est quoi qui va prolonger vos jours sur la terre? Oui, mais c'est quoi? Ça, c'est l'effet, mais c'est quoi la cause? La sagesse, mais comment spécifiquement en verset 1, qu'est-ce que la Bible dit qu'il faut faire pour prolonger nos jours? Il faut garder ses enseignements et ses préceptes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste écouter la parole, il faut être quelqu'un qui met la parole en pratique. Il faut faire qu'est-ce que Dieu nous dit de faire. Et comme c'est marqué dans vos notes, Dieu nous a promis une longue et heureuse vie. Juste vous donner quelques exemples. Et à la maison, je vous encourage à lire toutes les références que j'ai marquées, comme en Genèse 6 et 25 et 35, etc. Mais dans le psaume 91, verset 16, Dieu a dit, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'était le cas avec David en Chronique 29. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Est-ce que David est plus important que nous? Est-ce que Dieu aime David plus que nous?
Non.
Il y a certaines choses qui ont été promises au peuple de Dieu. Les promesses de Dieu, la promesse d'une longue vie, la promesse du bonheur, la promesse des bénédictions appartenaient à chaque enfant d'Israël. Tous ceux qui faisaient partie de l'alliance de Dieu avaient accès à ses promesses et avait le droit de vivre dans la lumière de ses promesses. Et qu'est-ce que nous savons? C'est que nous avons une meilleure alliance qui se base sur les meilleures promesses aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'une meilleure alliance ne pas oublier qu'est-ce que l'ancienne avait. Amen? Ça va être aussi bon, mais mieux. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre longtemps? Est-ce que vous aimeriez mieux qu'on planifie votre funérailles tout de suite? Hein? Non. Je sais que nous avons tous hâte d'aller au ciel. Mais le problème, c'est que Dieu veut qu'on vive longtemps sur la terre. Pourquoi? Pour ramener davantage des âmes avec nous au ciel. Si tout le monde mourrait demain, il y aurait plus de sel, plus de lumière dans le monde, et le monde irait à l'enfer, et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on vive longtemps et qu'on soit heureux. Et là, on pourrait faire tout un message au complet sur toutes les promesses concernant une longue et heureuse vie sur la terre. C'est quoi une longue vie? Mais qu'est-ce que je sais? C'est que avant l'inondation, avant le déluge, les hommes ont vécu. Ça, c'est après le péché, parce que Dieu a créé Adam. Et le but, c'était qu'Adam vive éternellement. Vous êtes d'accord? Mais, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'à cause du péché, le péché a infecté la race humaine et les hommes ont commencé à mourir. Ils sont morts spirituellement d'abord et ensuite ils sont morts physiquement. Mais ça a pris plus de 900 ans pour Adam de mourir physiquement. Il a vécu plus de 900 ans. Et même il y a plein de gens qui ont vécu 500, 800, 900 ans et plus dans l'Ancien Testament avant le déluge. Il y a des personnes qui croient que le pourquoi, c'est parce que avant le déluge, l'homme n'a jamais vu la pluie. Il y avait un genre de couche d'eau au-dessus de la terre. Les rayons du soleil n'étaient pas capables de percer avec toutes les choses négatives qui peuvent faire détruire et détériorer le corps physique. Après le déluge, par exemple, Dieu a prononcé une chose, il a dit, « Maintenant, le nombre de jours de l'homme sera combien? 120 ans. » C'est Dieu qui l'a dit. Les jours de l'homme sur la terre seront 121. Et aujourd'hui, on dit 121, c'est long. C'est pas long comparé à l'éternité. Vous êtes d'accord? Et en fait, il y a une place dans les psaumes où la personne dit, sous l'inspiration de l'Esprit, que les gens, ils ne vivent que 70 ans. C'est comme incroyable. Pourquoi est-ce que les gens meurent à 70 ans? C'est bien trop jeune. Amen? Mais aujourd'hui, rendu à 70, 75, 80, je m'en souviens, c'est de valeur, même mon grand-père, j'aurais aimé qu'il aurait eu une autre attitude. Mon grand-père, rendu à 80 ans, il commençait toujours à dire, « Mais tu sais, à mon âge, je peux plus faire grand-chose, Moi, j'ai toujours dit à mon grand-père, « Oui, mais grand-papa, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Et il a fini à 120. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Moïse n'avait même pas la nouvelle alliance. Il était sous l'ancienne alliance. Dieu n'était même pas en lui. Mais Jésus-Christ est en nous et plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Et si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus va vivifier votre corps physique. On devrait viser. Moi, je vise 120 ans. Est-ce que je vais atteindre 120 ans? On ne sait pas encore, mais je vise 121. À moins que le Seigneur me demande de donner ma vie comme martyr ou une chose comme ça. Mais j'ai pris une décision il y a longtemps. Je refuse, par la grâce de Dieu, de céder à la mort, de céder à la maladie, avant d'avoir accompli et réalisé le plan de Dieu pour ma vie. Et si je n'ai pas 120 ans, je vais continuer à croire pour la guérison. Amen? Pourquoi pas? Hein? Mais je trouve que c'est un bel. On va avoir du fun à votre funérailles. Non, je plaisante un peu, mais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il faut renouveler l'intelligence, n'est-ce pas? Et des fois, on pense, oh! Mais on parle, quand quelqu'un a 35 ans, que comme il est rendu à la moitié de sa vie, c'est pas vrai pour moi. 60 ans, ça devrait être comme moyen, là. Amen. À 60 ans. Et laisse-moi vous dire, qu'est-ce qui fait la différence? C'est votre attitude. Je connais des hommes de Dieu, comme la personne qui a fondé l'école de vie que j'ai fait. Il a 85 ans et il prêche encore, il voyage partout encore, et il prêche la parole de Dieu. Il a dit, j'ai un autre homme de Dieu que j'ai vraiment aimé, il a toujours dit, je vais pas prendre ma retraite, je vais juste prendre encore plus de feu. En anglais, il disait, I'm not going to retire, I'm going to refire. Hein? Pas la retraite, mais juste un peu plus de feu, je vais continuer et faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous et pour moi. Amen? Mais savez-vous une chose? Une longue vie, une heureuse vie, c'est pas une chose automatique, même si c'est la volonté de Dieu. Cette promesse, et c'est dans vos notes, est conditionnelle à notre obéissance. Obéissance. Mais on dit obéissance. C'est pas un gros mot, vous savez. Hein? Vous pouvez dire obéissance, vous sacrez pas, là. C'est un bon mot. Ça vient de Dieu et ça porte du bon fruit. Tout le monde dit encore obéissance. Dis-le encore, j'aime obéir. Ouh, ça, c'est le rêve de tous les parents d'entendre ces paroles sortir des bouches de leurs enfants. J'aime obéir, papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Jusqu'à 120 ans, oui. Alléluia. Cette promesse est conditionnelle. On l'a vu en Proverbe 3, 1. Si vous gardez mes préceptes, amen, c'était marqué, oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront tes jours. Mais en Éphésiens, chapitre 6, verset 1, nous voyons quelque chose dans le Nouveau Testament qui est probablement, sans doute, le verset favori de tous les parents. N'est-ce pas? Tous les parents savent citer ce verset, et ça devrait être le premier verset de la Bible que vous enseignez à vos enfants. C'est marqué en Éphésiens 6, 1, et on peut peut-être citer cela même, « Mais enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. » Selon le Seigneur, c'est important. On n'obéit pas à n'importe qui. Si mon père me dirait, je veux que tu ailles voler la banque pour moi, mon fils, je dirais, désolé, je peux pas. Mais si mon père me demande de faire quelque chose qui est selon le Seigneur, on devrait obéir. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier suggestion avec une promesse. Est-ce que j'ai lu le verset comme faux? C'est le premier commandement. C'est pas une suggestion. C'est pas juste une bonne idée. C'est un commandement. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est quoi la promesse? C'est marqué, c'est noir et blanc, afin que tu sois heureux. Woo! Et que tu vives longtemps sur la terre. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est conditionnel. Dieu veut qu'on vive longtemps. Il veut qu'on soit heureux. Mais il faut qu'on marche dans l'obéissance. C'est l'obéissance qui est le premier commandement avec une promesse. Et quand Paul a dit cela aux Éphésiens, il citait Deutéronome 5, 16, où Dieu a dit à son peuple dans l'Ancien Testament, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Regardons encore dans vos notes, j'ai plusieurs versets qui sont tellement frappants. Deutéronome 32, 46 dit, « Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles. » Soulignez cette phrase, « toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent, on peut dire, afin qu'ils obéissent et mettent en pratique toutes les paroles, encore souligner la phrase, « toutes les paroles de cette loi. » Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Ça, c'est une phrase bien importante. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que je prêche? Ce n'est pas un message sans importance. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous voulez être heureux, si vous voulez vivre longtemps, ce n'est pas un message sans importance. Ce n'est pas un message sans importance pour vous. C'est votre vie. Ça m'a dit, c'est ma vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Donc, Dieu est en train de dire, qu'est-ce que je dis dans ma parole? Tous les commandements que je vous donne, ce ne sont pas les choses sans importance, c'est votre vie. Si vous le faites, vous serez heureux et vous allez vivre longtemps dans le pays que je vous ai promis. Mais si vous ne le faites pas, vous allez être dans la misère, vous serez envahi par les ennemis, vous serez chassé du territoire que je vous donne et vous allez perdre votre héritage. Donc, ce n'est pas une chose sans importance, l'obéissance. Vous êtes d'accord? Amen! J'espère que vous êtes encore avec moi ce matin. Alléluia. L'obéissance ouvre la porte à une longue et heureuse vie. Cette promesse est conditionnelle. Alléluia. La promesse est conditionnelle à notre obéissance. Donc, qu'est-ce que j'avais à cœur ce matin? C'est de prendre un exemple dans la Bible. C'est peut-être le meilleur exemple que je connais concernant l'obéissance et la désobéissance. Et qu'est-ce que nous allons voir? D'abord, nous allons voir les dangers de la désobéissance, pourquoi c'est si important de ne pas désobéir. Et ensuite, on va finir en voyant quelques principes pratiques, comment marcher dans l'obéissance. Parce que si on le fait, c'est quoi le résultat? On va être heureux et on va vivre longtemps sur la terre. Amen. Et vous savez qu'en 1 Samuel, donc prenez votre Bible et allez avec moi à 1 Samuel chapitre 15. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15. Et si nous avons une histoire, je vais juste vous donner un peu de background, un peu d'arrière-plan de cette histoire. Dieu a choisi un homme qui s'appelle Saül pour être roi d'Israël. Le premier roi que Dieu a choisi pour son peuple, c'était Saül. Saül était loin de Dieu. Il avait vraiment une position que Dieu a ordonnée pour lui d'avoir, pour l'idée, pour diriger le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que même avant que les enfants d'Israël ont été relâchés d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge et tout, il y avait un groupe de personnes qui s'appellent les Amalécites, qu'eux autres, ils ont empêché les enfants de Dieu, ils voulaient les empêcher de passer à travers leur terre et d'échapper les armées égyptiennes. Donc, ils ont pris position contre le peuple élu de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a prononcé un jugement. Et une fois que Saül est devenu roi, Dieu a donné à travers le prophète Samuel les ordres, un commandement au Saül pour aller et détruire à 100% tous les habitants, tous les Amalécites, ainsi bien que tous leurs biens, tous leurs animaux. Dieu a dit, il faut tout détruire sans laisser aucune chose en vie, sans laisser aucune chose en bon état. Il faut aller parce qu'eux autres ont pris position contre le peuple de son alliance. Ils avaient besoin d'être vraiment anéantis. Et peut-être vous dites, oh, mais ça, c'est pas vraiment un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu d'amour. Des fois, laisse-moi vous dire une chose. Dieu aime le monde et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il sait qu'est-ce qu'il fait. Et il faut pas mettre en question les plans, les projets ou la sagesse de Dieu. Il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que quand ils sont allés, ils ont fait qu'est-ce que Dieu a dit de faire. Et Saül a obéi à 95%. Mais laisse-moi vous dire, qu'est-ce que nous allons découvrir? C'est que l'obéissance égale la désobéissance. Et ça, c'est un peu aux enfants. Je veux que tu te brosses les dents, je veux que tu mets ton pyjama et je veux que tu sautes dans ton lit pour faire dodo. Et si mon fils, il se brosse les dents, il met son pyjama et puis il va pour jouer sur l'ordinateur ou jouer avec son frère, est-ce qu'il a obéi? Non, il a quand même désobéi. Et c'est ça que nous voyons dans cette histoire. Et c'est une chose qui est sérieuse, mais c'est bon et c'est important pour nous de le voir. Hallelujah. Donc, les dangers de la désobéissance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauvé, ils ont épargné, tout le monde est épargné, les meilleurs des brebis, les meilleurs des animaux. Parce que le peuple ont dit, bon, on va sauver les meilleurs des animaux, on ne veut pas les tuer, ils sont trop beaux, hein? Ils sont trop merveilleux. On va les sauver, puis on va les amener et faire les sacrifices à Dieu. On va les sacrifier pour faire plaisir à Dieu. C'est ça que Saül a fait. Donc, c'est quoi le danger d'une telle désobéissance? Numéro un, elle ouvre la porte à la tromperie de soi-même. Quand quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, il se trompe lui-même, par des faux raisonnements. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est que quand Samuel est allé voir Saül, Samuel, verset 13, c'est dans vos notes, se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Première chose qui sort de sa bouche, « Hey, salut, béni soit l'Éternel. » Il a tout sa langage d'église. Et gloire à Dieu, oh, j'aime le Seigneur, j'ai fait qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire, j'ai observé la parole de l'Éternel. Mais est-ce qu'il a vraiment observé? Non, mais il s'est trompé lui-même. Et il était convaincu lui-même. Et vous savez qu'on peut, si on ferme nos oreilles à la parole de Dieu, si on ne fait pas qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, des fois on peut se tromper en pensant, mais tu sais, moi, je fais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Je fais telle chose, je me suis brossé les dents, j'ai mis mon pyjama. C'est sûr que Dieu veut que j'aille me coucher, mais de toute façon, j'ai fait qu'est-ce que mon père m'a dit. Ça, c'est une tromperie. Vous êtes d'accord? Alléluia. Et Samuel a dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Donc, il dit, en arrière de Saül, il entend, ben, oui, tu as obéi à la parole de Dieu, c'est quoi donc, qu'est-ce que j'ai? Numéro 2, les dangers de la désobéissance. Elle ne peut pas être compensée par les sacrifices. On pense des fois que, bon, Dieu m'a demandé de faire telle chose, okay? C'est comme, ça m'est déjà arrivé, même avec mes enfants, bon, il faut que d'aille ranger ta chambre, amasser tous les jouets et mettre ta chambre en ordre. Puis, je reviens et je vois mon fils qui est en train de passer la balayeuse parce qu'il aime ça. Il va prendre un petit chiffon, il va frotter pour dépoussiller les choses de même. Il dit, mais mon fils, je t'ai dit de ranger ta chambre. Oui, mais moi, je voulais faire telle chose. Regarde, c'est bon qu'est-ce que j'ai fait. Oui, c'est bon qu'est-ce que tu as fait, mais tu n'as pas obéi. Tu as fait une bonne chose, mais c'est pas qu'est-ce que je t'ai demandé de faire. Et combien de fois est-ce que Dieu nous demande de faire quelque chose, et au lieu d'obéir, OK, point final, on dit, je veux pas vraiment faire ça, mais si je fais une autre chose qui est bien, peut-être mon papa va être bien content. Vous savez de quoi je parle? On peut penser à toutes sortes d'exemples, et c'est une chose qui arrive souvent, souvent. Moi, je connais des personnes qui ils savent que la Bible dit qu'il faut pas abandonner leur assemblée. Il faut s'assembler en tant que chrétien. Mais il y a des personnes qui disent, mais tu sais, moi, j'aime mieux rester à la maison, lire ma Bible, écouter des cassettes, et moi, le Seigneur, on a une bonne relation ensemble. Gloire à Dieu, c'est pas le cas avec vous autres. La place serait vide aujourd'hui. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a des personnes qui disent, je vais faire un sacrifice. C'est pas qu'est-ce que Dieu a dit de faire dans sa parole, mais c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose de lire la Bible à la maison? De prier à la maison? Oui. Mais c'est pas l'obéissance, c'est qu'est-ce que Dieu a demandé, c'est assister à l'église. Ouh, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, hein. Mais peut-être j'ose pas. Alléluia. Mais il y a plein de choses que quand le Seigneur nous demande, peu importe le commandement, si on fait quelque chose juste pour faire un petit sacrifice au lieu d'obéir à 100%, c'est quand même la désobéissance. Vous êtes d'accord? Hein? C'est comme il y a des personnes qui sont appelées pour aller en Outre-mer. Et, oh, mais tu sais, moi, je ne veux pas aller en Outre-mer, je vais juste envoyer un chèque et envoyer quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien beau d'envoyer un chèque et on a besoin d'envoyer des autres, à moins que le Seigneur t'a demandé d'y aller. Amen? Là, à ce moment-là, on va dire, mais Seigneur, je pense que tu vas comprendre. Je vais juste faire un chèque et ma sœur, là, c'est elle qui va prendre l'avion. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Alléluia! Wouhou! Vous êtes là? Alléluia! Elle ne peut pas être récompensée par le sacrifice. Verset 15, lisons ce verset. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par les interdits. Samuel dit à Saül, arrête, dis plus un mot, tu es en train de creuser un trou là, tu vas te perdre. Il dit là, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Verset 18. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur ferais la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sous le butin? Et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pardon. Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? C'est fort, hein? Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. C'est comme mon fils qui dit, mais je me suis brossé les dents. OK? Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris, donc il commence à blâmer les autres, le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, et voici un verset qu'il faut souligner, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment on dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Laisse-moi vous dire. Sondez votre cœur. Examinons notre cœur ce matin. Est-ce qu'il y a des domaines dans notre vie où on sait qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu est claire, nette, noir et blanc. Fais telle chose et on dit, je vais faire autre chose. Je vais faire un bon sacrifice, Seigneur, tu vas aimer ça, mais là, je... Non, ça ne marche pas de même. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et qu'est-ce que ça va... C'est quoi le fruit? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on obéisse? C'est parce qu'il nous déteste ou parce qu'il nous aime? Il nous aime. Alléluia. Et il veut qu'on vive une longue vie sur la terre. Numéro 3. La désobéissance est comparée à la divination et l'idolâtrie. car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc on voit que quand on désobéit à Dieu, c'est la même que la résistance, n'est-ce pas? Comme un enfant qui on dit, fais telle chose, mais je veux pas, je veux pas. Je m'en souviens, j'avais un petit gars que des fois, quand il était très petit, 2 ans, il avait un caractère très fort, qu'on avait besoin de dompter avec amour et à la parole de Dieu. Mais je m'en souviens, des fois, on voulait l'emmener comme au parc pour jouer, et il fallait mettre ses souliers ou mettre ses mitaines ou son manteau en hiver. Et des fois, il résistait. Non, je veux pas m'habiller. Qu'est-ce qu'il savait pas? C'est même pas parler comme faux. Il savait pas que qu'est-ce qu'on voulait, c'était de l'amener quelque part pour qu'il puisse avoir du fun, du plaisir, pour qu'il puisse s'amuser. Mais il résistait. Non, je veux pas, je veux pas. C'est, si seulement il savait qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Combien de fois nous faisons la même chose avec Dieu? Dieu dit, fais telle chose. Il dit, non, je veux pas, je veux pas. Mais si seulement tu savais qu'est-ce que je veux faire avec ta vie, tu résisterais plus. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est la parole et c'est la vérité. La vérité va nous rendre libres. Numéro 4. Les dangers de la désobéissance, elle est motivée par la crainte, ou on peut dire la peur. Pourquoi est-ce que Saül a désobéi? Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Pourquoi? Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a eu peur. Pourquoi est-ce que les gens n'obéissent pas? Quand le Seigneur nous montre qu'il faut aller témoigner à une telle personne, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas des fois? On a peur, on craint le peuple. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand Dieu dit « Honore le Seigneur avec les prémices de vos revenus », on craint, on ne va pas arriver à payer les factures. On a peur, on a crainte, on n'obéit pas. La crainte donne naissance à la désobéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour parfait de Dieu bénit la crainte. Amen. Numéro 5, elle nous déqualifie pour réaliser le plan de Dieu. C'est important, si nous ne sommes pas obéissants, nous ne serons pas capables de réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Verset 25, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » C'est ça que Saül a dit à Samuel. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi. » Car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il l'a donnée à un autre qui est meilleur que toi. C'est fort, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes encore là ce matin? Je veux dire tout simplement, Dieu nous aime. Il veut qu'on ait une longue et heureuse vie sur la terre. Il a des choses qu'il a planifiées pour nous. Il y a des onctions, des postes, des positions qu'il a planifiées pour nous. Mais si nous ne marchons pas dans la désobéissance, il va être obligé de donner ces postes à quelqu'un d'autre. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que je dis qu'il faut être parfait? Non. Est-ce qu'on va encore faire des erreurs? Oui. Mais qu'est-ce qui compte, c'est qu'on soit prêt à obéir avec tout notre cœur. Et je sais que c'est un peu sérieux ce matin, mais j'ai une bonne nouvelle. On va finir vraiment avec une chose positive de comment le faire. Et vous voulez pas manquer ça. Regardez bien. Verset numéro 6. Elle nous empêche d'entendre la voix de Dieu. À l'époque de Saül, il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Si quelqu'un voulait entendre la voix de Dieu, il fallait entendre la voix du prophète. Vous êtes là? Donc, regarde qu'est-ce qui s'est passé à cause de sa désobéissance. Verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentit d'avoir établi Saül roi d'Israël. Donc, dès cette journée-là, le prophète n'est jamais plus allé voir Saül. Donc, Saül n'était pas capable d'entendre la voix de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, notre cœur est encore plus endurci et ça devient de plus en plus difficile pour nous d'entendre sa voix et d'écouter sa voix. Amen. On peut endurcir notre cœur, il ne faut pas le faire. Alléluia. Donc, Numéro 7, elle raccourcit notre vie. Et à la maison, vous pouvez voir 2 Samuel 1:1-16. Parce que là, on voit que plus tard dans la vie de Saül, il était dans une bataille. Et quand Saül est décédé, il était bien trop jeune pour mourir. Et même son fils Jonathan est mort avec lui. Vous savez comment il est mort? C'était un Amalécite qui l'a tué, en fin de compte. S'il aurait obéi à Dieu, peut-être cet Amalécite n'aurait pas été en vie pour le tuer. Amen? C'est ça qu'on voit. C'est sérieux qu'est-ce que je dis. La désobéissance revient pour nous hanter des fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est ça qu'on veut pour nos enfants, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont parents, on sait, si vous faites telle chose, mon fils, ma fille, ça va revenir vous détruire plus tard. Et on veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils vivent longtemps sur la terre, mais notre Père Céleste ne veut pas moins pour nous. Amen? Alléluia. Donc, comment est-ce qu'on peut marcher dans l'obéissance? On va finir là juste avec 3 choses très positives et très pratiques. En Deutéronome 30, versets 15 à 20, c'est juste en bas de numéro 7 dans mon note, verset 19 dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Vois-tu, Dieu est un Dieu qui nous donne les choix. La vie, la mort, malédiction, bénédiction, c'est à nous de choisir. Amen. Il continue, il dit, « Choisis la vie !» Afin que tu vives. Dieu veut qu'on choisisse la bonne chose. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. Tu peux souligner le mot aimer. Pour obéir à sa voix. Tu peux souligner le mot sa voix. Et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie. Comment est-ce qu'on peut choisir la vie? Première chose, prendre une décision d'aimer Dieu plus que tout. Jésus a dit une chose, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. N'est-ce pas vrai? Et c'est ça que je dis souvent à mes enfants, si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Mais c'est ça la clé. Si tu veux développer une vie d'obéissance, la meilleure chose à faire, c'est de tomber en amour avec Jésus. De développer un rapport avec lui, une relation avec lui. Parce que, je pense que je l'ai mis dans vos notes, les règles sans une relation, écrivez cela, les règles sans une relation provoquent la rébellion. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le cœur d'amour de Dieu, quand Dieu dit de faire une chose ou de ne pas faire une chose, il ne va pas lui faire confiance et ça va provoquer chez lui la désobéissance. Même chose pour nous, les êtres humains, avec nos enfants. Une personne qui est tellement stricte, qui a tellement de règles et des choses, règlements, fait ceci, fait pas cela, mais il n'a pas une relation d'amour et de tendresse avec l'enfant. L'enfant va peut-être obéir pour un certain temps, mais dès qu'il a un certain âge, jamais plus. C'est vrai ou pas vrai? Donc, c'est là où on a besoin d'aimer Dieu plus que tout. Et si j'aime Dieu, je vais obéir à Dieu. Tomber en amour avec Dieu. Hein? C'est comme j'ai marqué, amour égale temps. Si j'aime quelqu'un, je vais passer du temps avec quelqu'un, n'est-ce pas vrai? Si je dirais, oh, j'aime ma femme Tania, mais ça fait à peu près 6 mois depuis qu'on a eu une demi-heure ensemble. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Vous allez passer du temps avec la chose que vous aimez, que ce soit le golf, votre auto, votre femme ou votre travail. Laisse-moi vous dire une chose, il faut passer du temps. Amour égale temps, qui égale communion ou fraternité, qui égale connaissance. Plus on aime quelqu'un, plus on va passer du temps, plus on passe du temps, plus on va avoir de la communion, plus nous avons de la communion, plus on va avoir la connaissance. Plus on va avoir la connaissance, plus on va avoir la confiance. C'est vrai, n'est-ce pas? Plus je vais avoir la confiance, et ça égale l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Hier, j'étais avec ma fille, tous mes enfants, il y avait genre expo à Richmond. On est allé parce que mon fils est allé avec son école l'autre jour. On est allé voir ça avec les enfants.
Et il y avait une chose que ma fille voulait faire. OK? C'était un genre de glissoir, oh, qu'il faut, fallait monter. Mais moi, je n'avais pas le droit d'aller avec elle. Mais on voyait que... Elle disait, « Papa, viens avec moi. » Mais rendue à l'entrée, où elle était obligée d'aller toute seule, j'avais besoin de lâcher sa main. Donc, elle a commencé. Il y avait même un autre monsieur qui voulait l'aider, mais elle ne connaissait pas ce monsieur, la personne qui travaillait là. Donc, elle a comme figé, « Non, je vais pas. » Donc, elle est revenue à moi. Elle me connaît. Mais plus tard, son frère était là. Elle connaît son frère, son grand frère. Donc, elle a tenu son frère par la main et elle est embarquée. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance, parce qu'elle connaît son frère. Si vous avez un problème avec l'obéissance, le problème, ce n'est pas vraiment l'obéissance. Les règles sont une relation égale rébellion. Si vous avez un problème à l'obéissance, la meilleure chose à faire, c'est de passer du temps avec Dieu pour avoir la communion avec lui, pour développer une connaissance de lui. Et plus tu connais Dieu, plus tu vas lui faire confiance. Et si tu as confiance en lui, tu vas faire tout ce qu'il te dit de faire. Amen. Mon fils John, il peut être sur le... On a les lits superposés, c'est ça? Et je peux dire, John, saute dans mes bras. Et John, il saute. Laisse-moi te dire, il saute. Parce qu'il me connaît, il a confiance en moi. Et c'est la même chose. Quand Dieu dit, fais telle chose, on devrait dire, OK, papa, j'y vais. Amen. Deuxième chose, apprendre à écouter sa voix. Sa voix. Comment est-ce qu'on peut obéir? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Quand on parle de l'obéissance, on parle d'écouter, d'entendre et de faire qu'est-ce que nous entendons. La voix de Dieu est si importante. Quelle voix est-ce que vous écoutez? Je vais vous poser la question. Quelle voix est-ce que vous écoutez ce matin? Quelle voix est-ce que vous allez écouter demain matin? Mercredi, jeudi, vendredi. On voit dans la parole de Dieu, Adam a eu un méchant problème, il a péché pourquoi? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il a écouté la voix de sa femme. Et il y a bien des hommes qui vont dire, ah oui, tu vois, c'est là le problème. C'est la femme, c'est de sa faute. Non, 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 la femme était séduite, mais lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Amen. Donc, il a écouté la voix de sa femme au lieu d'écouter Dieu. Même chose pour Abraham. Abraham, il a eu des relations avec la servante de Sarah. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de Sarah au lieu d'écouter la voix de Dieu. Mais Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et une autre, ils ne suivront jamais. Donc, qu'est-ce qui est important dans l'obéissance? C'est d'entendre la voix de Dieu dans la Bible. À chaque fois que vous lisez la Bible, sachez que c'est Dieu qui vous parle. Et à chaque fois que vous avez dans votre cœur un témoignage intérieur, l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu vous parle, faites qu'est-ce que Dieu vous demande de faire, tout de suite, sans hésiter. Ça, c'est une chose que je travaille encore là-dessus avec mes enfants, par exemple. Je sais qu'ils ont besoin d'écouter ma voix. Et on a tous une tendance, quand les enfants n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on a une tendance à faire? Élever la voix, n'est-ce pas? Hey, écoutez! Et on veut parler plus fort pour qu'ils entendent. Mais là, le Seigneur m'a appris une chose. Des fois, c'est plus efficace. Je reste là, je dis, Michael ou Andrew ou John, est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez? Je dis quelque chose, ils sont en bas. Je dis, hey, montez, c'est l'heure de souper. Et s'ils ne viennent pas tout de suite, je dis, est-ce que vous entendez ma voix? Je veux qu'ils s'habituent à entendre ma voix. Et des fois, au début, j'avais besoin de répéter ça 2, 3, 4 fois. Est-ce que vous entendez ma voix? Oui, papa, qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous montiez maintenant. Si je crie, si j'élève ma voix trop, là, qu'est-ce qu'ils vont faire quand c'est Dieu qui leur parle? Dieu ne crie pas. Amen. Dieu, c'est souvent la petite voix tranquille de l'esprit qui va dire, prends pas ce chemin, prends l'autre. C'est ça qui va sauver votre vie. Amen. C'est la petite voix tranquille de Dieu, de l'Esprit. Et là, il faut que j'enseigne à mes enfants d'entendre la voix de papa. Des fois, ils disent, oh, mais j'ai pas entendu. C'est parce que vous n'étiez pas en train d'écouter. Amen. Oh, je ne savais pas. Est-ce que vous êtes en train d'écouter la voix de Dieu? N'écoutez pas une autre voix, mais écoutez la voix de Dieu. Et finalement, Et comme la Bible dit, je vais juste lire ce verset. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Si jamais le Seigneur vous parle, ne fermez pas vos oreilles de l'Esprit parce que ça va endurcir votre cœur. Vous allez avoir les cicatrices au lieu d'un cœur tendre pour entendre et obéir. Et puis finalement, pour attacher à lui, alléluia, attachez-vous à lui. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voulez-vous obéir à Dieu? Tombez en amour avec lui, parce que les règles dans une relation provoquent la rébellion. Écoutez sa voix. Il faut apprendre à entendre sa voix. Et quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et ensuite, attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Donc si, on peut juste rester 2 minutes de plus, là. On n'a pas encore terminé. On va bientôt. La parole de Dieu est claire. Que si on aime les autres choses plus qu'on aime Dieu, la désobéissance est comparée à quoi? L'idolâtrie. C'est quoi une idole? Une idole, c'est n'importe quoi dans notre vie qui est plus important que Dieu. Si quelque chose prend la place de Dieu, c'est une idole. Que ce soit un job, un travail, une personne. Donc la Bible dit que si on écoute la voix de quelqu'un d'autre plus qu'on écoute la voix de Dieu, c'est l'idolâtrie. Et c'est pourquoi la Bible dit « Attachez-vous à Dieu ». Aimez Dieu, ayez un cœur qui est tellement bien disposé à Dieu que vous êtes prêt à l'écouter plus que vous écoutez n'importe quelle autre voix. Vous l'aimez plus que vous aimez n'importe quoi dans la vie. Amen. Aimez Dieu, écoutez sa voix, attachez-vous à lui et vous allez marcher dans l'obéissance. Et si vous marchez dans l'obéissance, vous allez faire quoi? Vous allez vivre longtemps sur la vie, sur terre. Et vous serez heureux. On va se lever debout et on va prier avant d'aller aujourd'hui. Alléluia. Merci Père Céleste. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut venir peut chercher Tania pour le piano, mais sinon on va juste prier ce matin. Alléluia. Merci Père Céleste. Est-ce qu'on peut faire jouer quelque chose de douce, calme? On va juste prier. Alléluia. Merci Père Céleste. Moi, je crois que nous vivons dans les derniers jours. Et on voit dans l'Église primitive, ils étaient ensemble, tous les jours même. Souvent, ils avaient des réunions qui duraient des heures et des heures et des heures. Amen. Donc, je sais encore, il faut qu'on soit sensible aux personnes qui viennent ici. Surtout ceux qui sont ici pour la première fois. Je ne veux pas que tout le monde fasse heure, on va toujours prendre tant de temps. Mais écoute, dernièrement, on termine à 11h, à midi moins quart au lieu de 11h30. Mais si Dieu est en train de nous parler, si vous avez besoin de partir, partez. Je comprends. Mais si vous n'êtes pas vraiment obligé de partir, je vous demande, restons sensibles. Parce que souvent, à la fin de la réunion, c'est là où le Seigneur va travailler le cœur d'une personne. C'est là où le Seigneur va toucher le cœur que quelqu'un puisse être sauvé, né de nouveau. Amen. Et si on quitte la salle, et c'est vraiment pas nécessaire, des fois on peut déranger et en rendre parce que l'Esprit de Dieu. Amen. Je sais, des fois il y a des personnes qui ont besoin de travailler. Pas de problème. Mais est-ce que vous comprenez mon cœur ce matin? Alléluia, vous m'aimez toujours. Moi, je veux tellement faire la volonté de Dieu. Je veux voir la main de Dieu agir au milieu de nous. Je veux voir cette église heureuse, comblée. Je veux vivre longtemps sur la terre pour amener un grand nombre de personnes à lui. Donc, Père, au nom de Jésus, nous prions ce matin. S'il y a des personnes, Seigneur, ici présentes, qui ont besoin d'obéir à l'appel, Seigneur, de donner leur cœur à toi, de donner leur vie à toi, c'est notre désir ce matin, de voir chaque personne ici présente né de nouveau, sauvé, délivré du péché. Seigneur, et tous ceux qui sont là, qui sont déjà dans ta famille, je te remercie que tu vas nous enseigner à t'aimer davantage, pour te faire davantage confiance, pour obéir davantage, pour être encore plus heureux dans la vie. Sonde notre cœur. Montre-nous les choses qu'on a besoin de changer. Montre-nous si on a des places où on résiste au lieu de se soumettre. Seigneur, montre-nous que nous soyons un peuple obéissant, que nous soyons un peuple heureux. Merci, Père Céleste. Alléluia. Donc, avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aurait besoin de donner leur vie à Jésus? Peut-être vous dites, pasteur, je sais que Jésus est vivant, je sais qu'il est mort pour moi, mais je ne sais pas à 100% que je suis sauvé de mes péchés. On peut prier aujourd'hui. C'est un don gratuit que tu ne peux pas mériter, mais tu peux juste confesser avec ta bouche et croire dans ton cœur et Dieu va changer ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, oui, prie pour moi, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main ce matin qui veut donner la vie à Jésus? Alléluia. Alléluia. Sinon, alléluia, on va tous prier cette prière ici. Père Céleste, nous t'aimons et nous te faisons confiance. Merci pour la belle promesse d'une longue vie, une heureuse vie ici sur la terre. Merci Seigneur, parce que je t'aime, je vais t'obéir. Avec ton aide, par ta grâce, avec ta force Seigneur, je vais marcher dans l'obéissance. Et je serai béni. Et mon entourage sera béni. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen. Donc, avant de partir, on va peut-être juste prendre 2 minutes pour se donner la main. Et puis, vous pouvez, moi, je vais aller à la porte, vous pouvez donner la main aussi. Mais je vous aime. N'oubliez pas, mercredi soir à 7h. Et que le Seigneur vous bénisse. On va tous marcher dans l'obéissance et être heureux cette semaine. Amen.